Bonsoir Christophe André.
Bonsoir.
Nous sommes extrêmement nombreux pour vous accueillir à Bordeaux ce soir pour votre dernier ouvrage qui s'intitule « S'estimer, s'oublier » aux éditions Odile Jacob et qui est une suite sans être une suite d'un travail que vous avez déjà commencé avec deux précédents ouvrages. Christophe André, quelle est votre histoire? Bien évidemment, je fais référence à une petite page de ce livre.
Oui.
Alors je vous écoute, quelle est votre histoire?
Je vais raconter d'abord l'histoire du livre avant de raconter mon histoire, mais c'est vrai que c'est un bon début. Donc l'histoire de ce livre, c'est l'histoire effectivement d'une obsession, enfin une de mes nombreuses obsessions en tant que médecin, un psychiatre. Il y a eu la méditation, la consolation, l'anxiété, etc. Mais l'estime de soi en fait partie. Et quant à mon histoire, c'est vrai que c'est dans le livre qui est un abécédaire, je fais des tas de petites entrées. Et il y en a une, c'est « Racontez-moi votre histoire »,« Tell me your story », comme disent les Américains, avec un meilleur accent. Et c'est qui est une façon d'entrer en contact avec les gens, finalement. C'est chez les Américains très, très bien élevés. Quand vous êtes assis, je sais pas, dans les congrès de médecins, par exemple, vous vous retrouvez assis à côté de collègues nord-américains, psychiatres, médecins, et tous les Américains ne sont pas comme Trump, quand même. Il y en a beaucoup, notamment sur la côte Est, qui sont extrêmement bien élevés, très raffinés, très distingués, et donc ils s'intéressent beaucoup à vous, et ils vous posent des questions très centrées sur vous et très ouvertes, et une d'elles, c'est « Enchanté, faire votre connaissance, racontez-moi votre histoire ». Et je trouve que c'est génial comme façon d'entrer en contact avec quelqu'un, lui dire, au fond, comment vous raconteriez votre histoire? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est important dans votre vie que vous ayez envie de partager? Enfin voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie quand même.
Mais moi, j'aimerais bien, du coup, que vous racontiez... Alors, à cette question-là, qu'est-ce que vous répondriez en quelques mots? Quelle est votre histoire, Christophe André?
Ah.
Allez, courage. Ça s'appelle une interview. C'est pas marrant.
C'est l'histoire d'un petit garçon introverti qui devient psychiatre. Heureusement pour lui, sinon les choses auraient pu mal tourner. Il aurait été très anxieux, très déprimé, très stressé, très malheureux. La psychiatrie lui permet de faire pour lui ce qu'il a toujours aidé ses patients à faire. Donc voilà. Et puis c'est l'histoire d'un introverti qui découvre le genre humain tout au long de sa vie et qui découvre d'un solitaire qui découvre la paternité, la parentalité. Voilà, vous m'aviez demandé de faire bref. L'essentiel est là.
C'est parfait parce que j'ai beaucoup de questions. Ça va être même de toute façon trop court parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. Il y a beaucoup d'entrées. Et puis, une fois de plus, c'est facile de rentrer en conversation avec vous, plutôt avec votre livre, parce que vous choisissez ce principe d'abécédaire, donc de finalement de petites réflexions. Alors, ce livre est bourré de réflexions, d'anecdotes, de souvenirs aussi, ce qui vous permet de raconter que, par exemple, vous prenez souvent le train dans ce livre, et en général, j'ai l'impression, le train dans lequel vous ne faites rien, parce que vous êtes présent à tout. Alors, j'adore cette formule. Racontez-moi ce que c'est exactement.
Oui. Le train, c'est un endroit formidable parce que les compartiments, c'est des petits espaces où on est proche de ses semblables, on les voit fonctionner. Alors, je ne sais pas à quelle anecdote vous faites référence parce qu'il y en a plusieurs sur le train, mais je me souviens un jour, par exemple, dans le train, j'ai oublié si elle était dans ce livre ou non, mais je vous la raconte quand même. Je suis dans le train, donc je sais pas où j'allais, peut-être à Bordeaux, dans le wagon de TGV. C'est très tôt le matin, donc j'observe ce que font les gens. Le wagon est bondé, et donc les gens font tous quelque chose. Il y a ceux qui lisent, il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui sont sur leurs écrans. Il y a juste un homme qui ne fait rien. Et au début, je le trouve bizarre. C'est-à-dire, je regarde un peu mes semblables, et puis il y a un mec bizarre. Et je me dis, mais pourquoi il est bizarre? Et au bout d'un moment, je comprends qu'il est juste bizarre parce qu'il ne fait rien. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas en train d'envoyer des SMS ou de regarder ses vidéos, de lire ou de faire la sieste. Il est là et il fait comme moi. Il regarde par la fenêtre. Il a l'air content d'être là, mais détendu. Et tout à coup, je me dis, mais attends, c'est quoi ce monde où les gens qui sont là, posés, cool, tranquilles, à ne rien faire, tu les trouves bizarres par rapport aux autres, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et donc, voilà, c'est tous ces petits moments de vie. Alors, pour moi, c'est ça, la psychologie. C'est-à-dire, dans ce livre, finalement, par rapport à mes tout premiers livres, qui étaient aussi des très bons livres, hein, dont je suis très fier, très content, qui rendent service à leurs lectrices, à leurs lecteurs, mais c'était des livres de pure psychologie. Il n'y avait que les études scientifiques, les conseils pratiques, la description de séances de thérapie, enfin voilà, il n'y avait que de la psychologie clinique, thérapeutique. Et puis finalement, avec le temps, mais c'est ce qu'on sait tous, mais moi, il m'a fallu du temps pour le comprendre, j'ai bien vu que la psychologie, ce n'était pas que ce qui se passe dans les cabinets de soins, dans les hôpitaux, les cabinets de consultation, c'est aussi ce qui se passe dans le train. C'est aussi ce qui se passe dans la rue, c'est aussi ce qui se passe à table chez moi, c'est aussi ce qui se passe là dans cette salle, c'est aussi ce qui va se passer tout à l'heure lors des dédicaces, les histoires qu'on va se raconter. C'est aussi des événements qui me sont arrivés. Et du coup, dans ce livre, il y a tout ça. Il y a des souvenirs personnels, il y a des expériences scientifiques, il y a aussi beaucoup, parce que c'est ça aussi la psychologie, beaucoup de citations littéraires, oui. De citations qui, moi, m'ont... étaient tellement précieuses, tellement, je les ai trouvées tellement fortes que j'ai voulu les partager avec les personnes qui allaient lire le livre, parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que quand vous dites quelque chose, mais que vous le dites de façon un peu laborieuse et plate, les gens vous écoutent moins que quand vous le dites avec panache, avec brio, que quand la phrase est belle. Et du coup, toutes ces belles phrases qui, moi, m'ont touché, je les ai notées parce que si c'était moi qui avais écrit le conseil, ça aurait pris une demi-page, voilà, bon, ça aurait été banal, quoi. L'écriture était banale. Et là, je trouve un auteur ou une autrice qui écrit ça génialement en trois lignes. Et donc, je me dis, mais c'est trop bien, ça me fait réfléchir, je vais le partager avec les personnes qui vont lire le livre, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce mélange, mais qui est l'essence même de la psychologie. Hein. La psychologie, c'est pas juste limité à ce qui se passe chez le psy, c'est vraiment tout.
Et on va y revenir à ces auteurs dans quelques instants, mais en quoi le fait d'être présent à tout... Alors, je vous pose cette question, la réponse est dans ce livre... avec plusieurs entrées. Donc, je vous interroge à nouveau pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui. En quoi le fait d'être présent à tout, c'est-à-dire sans rien faire, participe à l'estime de soi?
Oui. Alors, ça, c'est le détour par la méditation. Finalement, comme dans la vie de tout le monde, moi, il y a des moments dans ma vie qui sont des moments charnières, des moments pivots où les choses basculent, où j'ai accès à une dimension à laquelle j'étais aveugle auparavant, et c'est ce qui s'est passé pour la méditation. Quand j'ai découvert la méditation, ce qu'était la méditation, c'est-à-dire ces moments, en tout cas la méditation telle qu'on la définit nous, hein, la méditation de pleine conscience, tous ces moments où on lâche les actions, les distractions, et on arrête de faire des choses et on se contente de se sentir, d'être là, on se contente d'être, on se contente de sentir qu'on est en vie, qu'on est dans cet instant. Donc, quand je suis dans le wagon de TGV, ben c'est voilà, je sens comment ça se passe dans mon corps, je me sens respirer, je regarde autour de moi, j'écoute autour de moi, et je prends le temps d'être en vie et de voir ce que ça fait d'être en vie. Et ça, c'est un truc très bizarre, c'est un peu indescriptible si on n'a jamais fait de méditation ou si on ne l'a jamais fait, mais c'est quelque chose qui fait que tout à coup, on se découvre soi-même, on découvre ce que c'est que, en s'accordant ce temps de présence à soi, ce que c'est qu'être inquiet, ce que c'est qu'avoir du chagrin, ce que c'est qu'être fatigué. C'est d'abord, donc, pour répondre plus directement à votre question, ça nous rapproche de l'estime de soi parce que c'est une marque de respect pour nous-mêmes. On cesse de considérer notre corps comme un outil qui doit nous conduire d'un point à l'autre, qui doit nous aider à atteindre nos objectifs, pour le considérer d'abord comme un partenaire, et puis après comme nous-mêmes. Il n'y a pas de différence, finalement, entre le corps et l'esprit. Ce sont deux, comme les deux côtés d'une même carte à jouer. Donc déjà, ça, c'est la première étape par rapport à ce rapport que doit être l'estime de soi, qui est un rapport de respect, de connaissance de soi, de découverte de ce qu'on est. Et puis après, ce sont des choses qui s'écrivent dans les chapitres suivants. C'est-à-dire, si vous méditez régulièrement, vous allez régulièrement observer les oscillations de votre âme, ce qui vous perturbe, ce qui vous réjouit, ce qui vous fait souffrir, et l'observer tranquillement, profondément, calmement. Comprendre aussi des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous êtes toujours dans l'action, dans la poursuite d'objectifs, c'est que faut jamais se faire de mal. Faut toujours être soucieux de s'apaiser, de se faire du bien, de se restaurer, de se consoler, parce que la vie nous fait suffisamment de mal comme ça. C'est pas la peine d'en rajouter à l'intérieur. Donc c'est toutes ces choses là que à quoi la méditation nous ouvre.
Et dans ce livre, vous nous expliquez aussi, en citant par exemple Pascal Quignard, que finalement, le problème, c'est pas la réalité, c'est ce qu'on en fait, c'est la vision qu'on en a et comment on la traduit. Vous nous expliquez que la défaite, elle est construite à l'intérieur de nous. Vous nous expliquez.
Oui. Il faudrait qu'on le lise, ce passage, c'est tellement beau. L'énorme inconvénient des abécédaires, c'est qu'on se dit, punaise, où j'ai mis ce passage?
Ah ben ça, c'est sûr.
Alors ça doit être à défaite.
Ben voilà, pendant que vous cherchez, donc vous nous expliquez quand même de plein de points de vue différents.
J'ai trouvé. Écoutez, comme c'est ces trucs. Vous tombez sur ça lors d'une lecture et vous arrêtez, vous dites punaise, c'est de l'intérieur de soi que vient la défaite. Dans le monde extérieur, il n'y a pas de défaite. La nature, le ciel, la nuit, l'au-delà du noir de la nuit, la pluie, les vents, ne sont qu'un long triomphe aveugle.
Ouais, pas mal.
Alors, je sais pas si j'ai tout compris ce que voulait dire Quignard, mais il me dit un truc fondamental. Il me dit, la défaite, c'est un petit concept de petit humain. Tu peux échapper à cette crainte, tu peux échapper à ce mal que tu te fais en parlant d'échec, de défaite, en tout cas de défaite. Échec, c'est autre chose. Et voilà. Et c'est ces moments. Alors après, je commente un petit peu. Ça, c'est moins bien que Quignard, mais je pense qu'il y a des gens qui sont quand même très doués pour dire des choses capitales en peu de mots et avec ce souffle, quoi, de la poésie, de l'écriture inspirée, qui enclenche des réflexions en nous durables.
Régulièrement, en fait, vous minimisez votre rôle en essayant de nous faire croire que, en fait, vous n'avez rien fait du tout. C'est pas le cas, parce qu'avec tous ces exemples-là, vous nous apprenez bien que l'ego est tyrannique et que l'estime de soi, c'est à cet endroit-là qu'il est remis en question. Et notamment, et alors c'est la première fois que je me fais cette réflexion dans votre écriture, notamment chez les adolescents. Et en fait, ça vous arrive rarement d'aborder la question, particulièrement pour un âge de la vie, j'ai envie de dire.
Oui. En matière d'estime de soi, évidemment, c'est une dimension qui varie quand même selon les époques. Qui varie selon les époques, selon les âges de la vie, selon les sexes aussi, entre les hommes et les femmes, par exemple. Il n'y a pas les mêmes niveaux d'estime de soi.
Ça, vous en parlez très bien dans ce livre.
On en reparlera, bref. Et donc, l'estime de soi des adolescents, ben, les pauvres, c'est la période de notre vie où on a les doutes les plus douloureux sur nous, évidemment. On n'est plus dans cette espèce de certitude que nous apporte l'enfance. On n'est pas encore dans les sources de valorisation multiples, parfois trompeuses et toxiques, mais bon, que nous apporte l'âge adulte. Et donc, on est dans le qui suis-je, où je vais, pourquoi je suis fait. Et surtout, on est dans la souffrance vis-à-vis de soi. Plus je souffre, que ça soit de mon corps ou de mon esprit, plus je vais être tourné vers moi-même. Vous savez que la souffrance, c'est un aimant attentionnel. Si vous avez très mal quelque part, très mal aux dents, très mal au dos, très mal aux pieds, très mal à l'estomac, ça vous est difficile de penser à autre chose qu'à cette douleur. Ça vous est difficile de consacrer de l'attention à autre chose que cette douleur. C'est un aimant attentionnel. La souffrance, c'est la souffrance psychologique aussi. La souffrance dépressive, anxieuse, la souffrance du chagrin d'amour, du manque, c'est une souffrance obsédante parce que nos pensées sont sans arrêt attirées vers ce qui ne va pas et ont beaucoup de mal à se porter vers tout le reste. Et les adolescents sont noyés en eux-mêmes. Ils sont sans arrêt en train de souffrir de leur ego, de leur moi social, en train de se demander pourquoi je suis fait, qu'est-ce qu'on pense de moi, quelle est ma valeur, est-ce que je suis aussi bien que les autres, est-ce que j'arriverai un jour à avoir telle ou telle qualité. Et c'est un des messages du livre, plus on est centré sur soi, plus on est centré sur le jeu, plus on est loin de ce bon équilibre de l'estime de soi. Et c'est pour ça que le livre s'appelle « S'estimer et s'oublier ». C'est-à-dire qu'en fait, une des solutions à l'estime de soi, c'est, après avoir fait ce travail sur soi, de passer à autre chose, de faire l'effort, de s'ouvrir aux autres. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'elle sert, l'estime de soi. Elle sert à nous pacifier intérieurement pour nous permettre ensuite d'agir au mieux de nos envies, de nos idéaux, de nos intérêts, sans être encombré par soi. L'ego, il nous encombre de deux façons. Il peut nous encombrer, comme chez les adolescents, par exemple, par ses peurs. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Est-ce que je dis des choses intelligentes? Est-ce que je suis assez attirant pour les autres? Est-ce que je suis digne d'être aimé? On est noyé dans le jeu. Mais il peut être aussi, il peut poser des problèmes chez les narcissiques, ce qu'on appelle les gens narcissiques, qui eux s'estiment trop, méprisent un peu les autres, et qui sont pareillement emprisonnés en eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont vu à quel point j'étais intelligent? Est-ce qu'ils ont vu combien je disais des choses passionnantes? Pourquoi ils ne me laissent pas finir de parler alors que ce que je dis est beaucoup plus intéressant que ce qu'ils disent? Pourquoi ils ne me laissent pas passer devant eux dans la file d'attente? Parce que moi, mon temps est précieux. Donc tout ça, c'est des échecs de l'estime de soi parce qu'on est dans le jeu, dans l'ego, etc. Donc à l'adolescence, effectivement, toutes ces questions sont une source de souffrance et d'insécurisation de l'estime de soi. Ça s'arrange après, ensuite, avec le temps. Et l'autre question qu'on abordait tout à l'heure, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Ça aussi, c'est très intéressant parce que, traditionnellement, l'estime de soi des femmes, à partir de l'adolescence, justement, ça décroche et elle est toujours plus basse, à travers les questionnaires en tout cas qu'on fait passer, que celle des hommes. Alors que vu de l'extérieur, on ne voit pas trop pourquoi les femmes, en tant qu'êtres humains, seraient inférieures aux hommes. On comprend bien qu'il y a un biais, quoi. Elles ne sont ni supérieures ni inférieures, elles sont les égales des hommes, et voilà. Mais systématiquement, les études montrent que non, elles se sous-estiment beaucoup plus que leurs équivalents masculins, à génération égale, à toute condition égale. Donc évidemment, on se doute bien que ce n'est pas quelque chose de biologique, hein, qu'il y a un phénomène qui est de l'ordre de la sociologie là-dedans, que c'est l'assignation, hein, c'est le grand discours féministe contemporain, mais qui est très sain, qui remet bien les choses en place, parfois de façon vigoureuse, mais il faut quand même que ces choses-là aient lieu. Et donc, c'est l'assignation des femmes à des rôles un peu inférieurs, à des rôles secondaires par rapport aux hommes, et avec des stéréotypes que les femmes intériorisent. Parce que le problème des stéréotypes sociaux sur les supériorités des uns et les infériorités des autres, c'est pas tant qu'ils existent, c'est pas tant que ceux qui se croient supérieurs les adoptent, c'est que ceux qui en sont victimes les adoptent aussi. Et c'est ce qu'on appelle l'intériorisation du stéréotype. Et les femmes, pendant des générations, ont intériorisé qu'elles étaient quand même moins bonnes que les hommes pour tous les trucs importants. C'est-à-dire qu'elles étaient quand même moins bonnes en maths, moins bonnes en tant que chef d'entreprise, moins bonnes en politique, moins bonnes pour tous les trucs pour lesquels il fallait de la persévérance, du courage, de la volonté. Et elles y croyaient, et elles y croient encore. C'est pour ça qu'il y a ce fameux hiatus dans les entreprises. Quand on propose une promotion à une femme, on s'aperçoit que la plupart du temps, elle se demande si elle la mérite et si elle va être à la hauteur. Alors que l'équivalent chez un homme, l'homme se dit « Ah, enfin, ils ont reconnu, il était temps qu'on reconnaisse, mais voilà, et ce truc-là. » Et alors, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que apparemment, il y a un petit frémissement et c'est en train de changer. C'est-à-dire les jeunes générations de filles, donc on n'a pas encore des données chiffrées suffisantes, mais les jeunes générations de filles ont bien pigé qu'il ne fallait plus obéir à ces stéréotypes, intérioriser ces stéréotypes, etc. Enfin voilà, c'est encore un sujet très vaste.
Ça. Et je vous pose la question des adolescents parce que finalement, paradoxalement, dans votre livre, on a quand même vraiment la sensation, vous le dites, qu'on est dans une époque que vous appelez l'apogée du narcissisme et que donc cette adolescence dure très longtemps et que finalement les adultes quoi disparaissent et que cette histoire d'estime de soi, paradoxalement, elle est au mauvais endroit ou elle est au mauvais curseur et ça répond à votre titre quand vous dites s'estimer et s'oublier, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de basculement dans le trop qui est une forme de mésestime.
Oui, parce que les données sont assez nettes. Il y a quand même une tendance globale de nos sociétés à créer plus d'individus narcissiques, ou en tout cas à augmenter le narcissisme chez les contemporains. Et donc le narcissisme, c'est quoi? C'est penser qu'on a beaucoup de qualités, pourquoi pas, ça c'est pas un problème, mais penser qu'on est en compétition permanente avec les autres, penser qu'on est supérieur aux autres, vouloir être devant eux dans la course aux privilèges, aux avantages, à la reconnaissance. Et donc ça, c'est jamais quelque chose de très bon quand même pour une société. Quoi. C'est quelque chose qui va abîmer les liens sociaux, hein, qui va à l'encontre des idéaux de fraternité, de collaboration, d'entraide mutuelle et tous ces liens horizontaux. Et c'est le narcissisme, c'est une vision verticale des rapports sociaux. Il y a les gagnants, les perdants, il y a ceux qui sont meilleurs que les autres et ceux qui sont moins bons que les autres. Et notre époque, elle est très, très marquée par ça pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a un effet rebond par rapport aux fonctionnements sociaux jusqu'aux années 50, où les individus étaient quand même un peu soumis à leur famille, à leur groupe d'appartenance. Voilà, si j'appartenais à une famille, je me sacrifiais pour ma famille. Si j'étais le papa ou la maman, je renonçais un peu à mon propre bonheur, à mon propre épanouissement, pour que ma famille vive bien matériellement, etc. Je me sacrifiais pour mon emploi, pour ma patrie, je partais à la guerre... chantant, etc. Donc tout ça, effectivement, pendant longtemps, les sociétés valorisaient beaucoup plus les groupes que les individus. On s'est rebiffé un petit peu comme ça. Nos sociétés se sont rebiffées contre ça dans les années 60, mai 68, et puis les années 70, hein, avec la remise en avant des droits de l'individu, droit de l'individu à s'affirmer par rapport à sa famille, par rapport à son emploi, par rapport à s'affirmer, pouvoir contester les lois de son pays, toutes ces choses-là, ce qui au départ était une bonne chose. Et puis là, on a l'impression qu'il y a une espèce d'emballement où les personnes ne reconnaissent plus aucun droit que le leur, en tout cas certaines personnes. Et donc ça complique quand même ce qu'on appelle le fonctionnement au niveau d'une société. Donc il y a ça, alors ça va s'ajuster, on est passé d'un extrême à l'autre, en gros on va retrouver nos billes. Ça a été aggravé par la société de consommation, qui est une société au fond où on vous pousse à acheter des objets dont vous n'avez pas besoin, mais dont on vous suggère qu'ils vont accroître votre statut social, qu'ils vont vous permettre de montrer que vous êtes un gagnant. Et donc l'exemple le plus connu que je cite dans le livre, c'était ce publicitaire qui avait conseillé Mitterrand pour une de ses campagnes. Donc ça devait être dans la fin des années 90 ou 2000 qu'il avait dit ça. C'était un gars qui s'appelle Jacques Séguéla. C'est lui qui avait dit, voilà, si à 50 ans vous n'avez pas une Rolex, c'est que vous avez perdu,
vous avez raté votre vie,
voilà. Bon... peut dire ce qu'il veut, mais quand même, c'est des messages problématiques, quoi. Si à 50 ans, vous n'avez pas une Rolex, vous avez raté votre vie. Donc, cette société qui tend à nous pousser comme ça, à arborer les bonnes marques de fringues, de voitures, de vêtements, de meubles, tout ce qu'on voudra, et à nous faire croire que c'est avec ça qu'on peut augmenter notre statut social et donc notre estime de soi, c'est une société toxique, si on suit ce genre de voie pour aller mieux. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux, la catastrophe des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux qui, au départ, comme tout, hein, c'est comme le sucre ou comme l'alcool, c'est génial. L'alcool, c'est super. Le sucre, c'est délicieux. Sauf que il y a une question de bon usage, évidemment, à faire. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. top, les réseaux sociaux, ça permet d'être en contact avec d'autres personnes, voir un peu comment ils vivent, ce qu'ils font, ces trucs-là. Sauf que c'est devenu une grande foire aux mensonges où tout le monde se présente sous ses meilleurs aspects, ses succès, les jours où on a bonne mine, où on est entouré d'amis sympas dans des endroits paradisiaques. Et du coup, si je suis un peu la vie des gens sur les réseaux sociaux, ben je suis toujours le perdant. Ma vie, elle est moins bien que celle qui est affichée sur les réseaux sociaux, forcément. Alors que si je regarde comment vivent les gens dans la vraie vie, je suis beaucoup moins déstabilisé. Parce que je vois bien qu'un tel a une plus belle voiture que moi, et qu'une telle est plus belle que moi, ou j'en sais rien, mais je vois aussi que à côté de la belle voiture ou à côté de la beauté, il y a des boiteries dans leur vie, il y a des choses qui vont pas dans leur vie. Et donc, ça me rassure d'une certaine façon. Ça, je vois bien qu'il y a des choses sur lesquelles ils font mieux que moi. Je vois aussi qu'il y en a sur lesquelles je ne suis pas trop largué. Sur les réseaux sociaux, je vois pas tout ça. C'est des comparaisons mensongères où je suis confronté à des sortes d'icônes que les gens ont eux-mêmes fabriquées. Donc voilà pourquoi notre boussole à estime de soi est de plus en plus dérégulée chez un certain nombre de personnes.
Et vous prenez un bon exemple, parce que vous dites finalement, l'estime de soi, ça devrait être résumé à travail, beaucoup, soit ferme avec toi-même et en même temps doux, soit gentil avec les autres, et puis, voilà, dis ce que tu penses vraiment, mais gentiment, évite le mensonge, c'est pas terrible. Enfin, voilà. En fait, au fur et à mesure des pages, on glane quelques informations, une espèce de petite charte sur ce qu'il est le meilleur de se dire. Mais vous dites au final, c'est un peu comme la santé. La santé, quand tout va bien, on se pose pas la question. On s'interroge pas sur son foie ou sur ses genoux parce que tout va bien. On s'interroge le jour où ça va pas. Et vous dites l'estime de soi, c'est pareil. On devrait arriver à ça. Ne pas s'interroger sur son estime de soi. Et ça s'entretient comme la santé.
Oui, c'est très bien que vous rappeliez ça. Les vieux médecins avaient une formule sur la santé. Ils disaient « la santé, c'est la vie dans le silence des organes ». C'est assez beau comme définition, la vie dans le silence des organes. Bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous pouvez aussi avoir un organe silencieux, mais qui est en train de vous fabriquer un petit cancer. Moi, quand j'ai eu mon cancer du poumon, je m'en rendais pas compte, mais il était là, tranquille, en train de... Bon, ok, mais quand même, c'est beau parce que ça nous rappelle que, au fond, pouvoir oublier son corps, c'est une façon, c'est un peu ça, se sentir en bonne santé. Je ne suis pas préoccupé par mon corps, il ne me fait pas mal, il ne limite pas mes mouvements, mes projets, mon quotidien. L'estime de soi, c'est la vie dans le silence de l'ego. La vie dans le silence de l'ego. Ce que j'appelle l'ego, c'est un terme bouddhiste, l'ego, c'est le moi-je. Cette partie de nous-mêmes qui réclame toujours qu'on s'intéresse à elle, qui est susceptible, qui est envieuse, qui est jalouse, qui est insécurisée, qui en veut toujours plus. Et donc, tant que l'ego est là, par exemple, si un ami nous raconte un de ses succès, si l'ego est trop important, on va se dire « et pourquoi pas moi ?» On va être envieux au lieu d'être heureux de ce succès. Et donc, la bonne estime de soi, c'est effectivement la vie dans le silence de l'ego. C'est-à-dire on est capable d'oublier cette partie assez naturelle et spontanée. On le voit chez les enfants. Les tout-petits, évidemment, tant qu'on leur a pas appris les codes, quand ils ont très faim, que le goûter arrive, ils ont tendance à prendre tous les gâteaux. Et donc, il faut qu'on leur explique que non, il faut en laisser aux autres, etc. Et ça leur vient très vite, parce qu'ils sont aussi prédisposés au partage. Mais il y a ce réflexe comme ça qui surgit. Et c'est vrai que le travail sur l'estime de soi, c'est un peu ce travail de domestication de l'ego. On voit ça, par exemple, envers une émotion qui s'appelle l'envie. L'envie, c'est quand on voit que certaines personnes ont des chances ou des avantages qu'on n'a pas. Des amis qui sont toujours de bonne humeur, toujours heureux, alors que je suis dépressif. J'aurais envie d'avoir cet avantage qu'ils ont, ou des amis qui ont beaucoup d'argent alors que j'en ai pas. Bon, ça peut porter sur tout. Et l'envie, elle est à peu près inévitable. Le constat que quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas et que ça commence par me faire du mal, c'est un petit peu inévitable parce que c'est un moteur aussi des efforts d'ajustement des humains dans les sociétés. Mais par contre, on voit très bien la différence selon les personnes en fonction de ce qu'ils font de cette envie. L'envie est à peu près inévitable, comme toutes les émotions. On ne peut pas empêcher une émotion d'apparaître, mais on peut apprendre à la réguler, à la digérer, à la métaboliser, à l'utiliser. Réguler l'envie, c'est partir du principe que les envies spontanées à l'état sauvage, c'est assez souvent des envies soit agressives, soit dépressives. L'envie agressive, c'est ce salaud, pourquoi il a tant de chance et pas moi. Et l'envie dépressive, c'est je suis vraiment un pauvre mec, pas être capable d'être heureux, d'avoir un SUV. Bon, voilà. Et évidemment, ça, c'est pas un bon plan, quoi. Parce que d'abord, je vais être malheureux, je vais être énervé contre les autres. Mais par contre, on peut aussi travailler à transformer son envie en envie émulative. C'est-à-dire, écoute, si ça te perturbe comme ça, c'est que ce dont cette personne dispose est important pour toi. Donc, au lieu de t'énerver contre elle ou contre toi, demande-toi comment elle a fait pour l'obtenir, comment elle habite cette chance, comment elle s'y est pris, quoi. Et inspire-toi chaque fois que possible, en tout cas, de cette personne-là. Et là, du coup, on fait quelque chose d'utile. On travaille sur nous-mêmes, on travaille à son développement personnel plutôt que de se laisser miné par des émotions douloureuses qu'on n'a pas assez observées.
Et quand c'est difficile, vous glissez aussi dans votre livre qu'on peut toujours imaginer que l'anxiété est assis à côté de vous et que vous lui parlez et que finalement vous pouvez considérer les choses en réfléchissant et en vous disant qu'est-ce que tu dirais à un bon ami qui t'évoquerait qu'il n'a pas de SUV et qu'il est malheureux, tu lui dirais bah, c'est pas très grave. Donc tu peux te dire à toi-même, donc quelque part de prendre de la distance en essayant de considérer l'anxiété presque comme quelqu'un d'autre qui n'est pas complètement nous. Et je trouve ce conseil assez reposant de se dire en fait c'est pas moi, quelque part c'est pas que moi.
Oui. Après, c'est tout ce... Il y a des chercheurs qui font des travaux sur ce qu'on appelle l'endophasie. J'adore, j'en ai rencontré une, là, c'est passionnant. L'endophasie, c'est comment on se parle dans notre tête. Vous savez, quand on se dit, bon, alors voilà, concentre-toi, tu vas y arriver, ou non, c'est pas grave, respire, tu vas t'en sortir. Voilà, c'est l'endophasie. Et effectivement, on passe notre temps à réguler ces histoires-là, là, sur le comment on se parle, comment on se traite, comment pour le. Alors, il n'y a pas que pour l'anxiété d'ailleurs, c'est-à-dire un auteur local, génie absolu, un des premiers auteurs finalement en français, je trouve, à avoir parlé de l'estime de soi, c'est Montaigne.
Oui.
Montaigne, avec cette formule célèbre, hein, il parlait de l'amitié que chacun se doit. C'est important que chaque être humain soit un ami pour lui-même. Et c'est très, très bien vu. Et puis, il parlait aussi à un autre moment, il disait, de toutes nos maladies, la plus détestable est celle de détester notre être, de ne pas nous aimer, de ne pas nous apprécier, de nous détester parfois. Et en fait, ce que veut dire Montaigne, c'est que le béaba de l'estime de soi, comme vous le disiez, c'est de nous traiter comme on traiterait un ami. Un ami qui échoue, on ne l'enfonce pas, on le réconforte, on le console, mais on lui met aussi les yeux dans la direction des efforts qu'il va avoir à faire pour ne pas rééchouer régulièrement. Un ami qui réussit, on ne l'insécurise pas en lui disant « taille du bol, mais pas sûr que ça remarche ». C'est top, mais non, mais c'est comme ça qu'on se parle parfois. Hein. Les anxieux dont vous parliez, les succès ne les rassurent pas parce qu'ils se disent « waouh, je ne sais pas comment ça a marché ». Comme un peu quand vous réparez un problème informatique ou de votre box, vous n'avez pas compris ce qui s'était passé, ça se remet à marcher, mais vous vous dites « pourvu que ça ne revienne pas parce que j'ai toujours pas compris quoi, ce qui avait remis le truc ». Enfin, c'est ce que je me dis moi. Mais... Et donc, effectivement, c'est le... Ce rapport, l'estime de soi, c'est pas être amoureux de soi, c'est être son ami. Et l'amitié, je crois que vous l'avez dit, c'est exigence et bienveillance. Je suis toujours bienveillant, mais aussi je renonce pas à être exigeant parce que les deux sont compatibles.
Oui, parce qu'on apprend dans ce livre déjà, je ne savais pas qu'au château de Montaigne, il y a en fait voilà, 65 sentences de sagesse.
Génial. La plupart, ah oui, bon, il faut que vous alliez hein, visiter la tour de Montaigne, c'est très émouvant parce que c'est vraiment été un endroit capital pour son œuvre. Et le grand bureau bibliothèque, tout en haut de la tour, on a une très très belle vue alentour, où il dictait ses livres. Il n'écrivait pas ses livres, Montaigne, il les dictait. Puis après, il recorrigeait sur les manuscrits ses copies inlassablement. Il y a plein de phrases écrites en latin ou en grec au plafond, et un tiers des phrases, c'est sur l'estime de soi. C'est voilà, c'est l'espoir. C'est pas ça, c'est de lui, il l'a pas écrit, mais dans l'esprit de Montaigne, c'est voilà, ne vous la pétez pas. Le plus grand roi du monde ne sont jamais assis plus haut que sur leur cul. Voilà, c'est les trucs de, à la Montaigne, quoi. Et toutes ces phrases sont enfin un tiers de ces phrases sont des phrases de cet auteur antique qu'il aimait beaucoup, qu'il lisait dans le texte et qui rappelle l'inanité de l'orgueil, des prétentions. Que voilà, c'est pas la peine de s'estimer au-delà du nécessaire. C'était un truc qui était très important pour lui, effectivement.
Et avec Montaigne, on apprend aussi que vous êtes devenu optimiste. Voilà, vous nous racontez dans ce livre que vous êtes devenu optimiste et que vous dites finalement, les optimistes, c'est pas des gens qui ne voient pas les problèmes, hein. Ils les voient très bien, mais ils arrivent quand même à être heureux et à être joyeux. Et vous dites, bon, j'ai fait cette expérience de l'optimiste, c'est super, mais c'est très fatigant, ce que j'ai trouvé assez drôle. Parce qu'une fois de plus, la dernière fois que vous êtes venu pour Consolation, je vous l'avais dit, je vous trouve très drôle, Christophe André, et vous m'avez dit ça alors. Ben là, définitivement, je vous trouve très drôle. Hein. J'insiste.
C'est gentil, mais bon. Et je pense ne pas mériter ce compliment, mais c'est un autre. Non, j'aime l'humour, j'aime beaucoup les gens qui me font rire. Quoi. Ça, c'est...
Et pourquoi il n'y a pas l'humour? Pardon, dans cet ABCDROH, j'ai regardé, il n'y a pas humour. Et pourtant, dans votre livre, vous citez plein de choses très rigolotes. Oui. Quand vous dites, par exemple, que vous parliez des femmes tout à l'heure, vous dites. Marie Curie, un journaliste l'interview en lui disant « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être mariée à un grand savant ?» Et elle répond en disant « Je sais pas, demander à mon mari. » En fait, votre livre est bourré de réflexions comme ça. Donc, je lisais les pages en me disant « Je vais arriver au H et il y aura forcément humour. » Eh ben non.
Ben non, parce que moi, je sais pas produire l'humour.
C'est pas
vrai.
Je sais
le citer, je sais en profiter. Et non, mais et l'humour, c'est génial parce que c'est pourquoi ça marche l'humour. Quand, par exemple, une des phrases là qui récemment m'a beaucoup fait rire, c'est un des frères Marx, Groucho Marx, donc qui a eu cette phrase célèbre sur le vieillissement. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui lui est arrivé. Qui n'a pas eu ce sentiment en se regardant dans la glace certains matins, en disant, punaise. C'est moi. Et il le dit en une pirouette comme ça, et tout y est. Cette espèce de décalage entre le vieillissement du corps qui va assez vite quand même, et puis celui de l'esprit qui est toujours à la traîne, cette espèce de fraîcheur qu'on garde tous. Alors il y en a un autre qui a dit ça de façon magique, c'est Bobin. Bobin, il a cette phrase à un moment, mais ça vous arrache des larmes, des frissons et des heures de réflexion. Il dit, je sais pas, il y a une cérémonie, un ami est mort, puis il voit sortir le cercueil et dit, il écrit, tout cercueil est celui d'un enfant. Et il voit cet ami qui était un monsieur âgé dans son cercueil, et tout à coup il se dit, mais lui, jusqu'au fond, c'était encore un enfant comme moi. Comte Sponville, dans un de ses bouquins, un bouquin qu'il a écrit avec son épouse qui a fait les dessins, Sylvie Thibert. André Comte Sponville, grand philosophe qui intimide beaucoup de monde, un type brillantissime, un esprit acéré et tout. Il raconte un jour une espèce de scène où il prend l'ascenseur avec un monsieur habillé en PDG. Une espèce de monsieur avec un costume magnifique, grand, carré, qui sent bon, enfin, voilà. Et tout à coup, il raconte la scène, il dit... Je me suis senti un tout petit garçon, comme quand j'étais tout petit, et que ce genre de monsieur m'impressionnait. Quand il décrit l'histoire, il doit avoir 60 ans, 50 ans. Et c'est toujours là, c'est toujours en nous, cette histoire-là. Et donc, quand Groucho Marx dit ce truc qui fait rire, mais qui, moi, me fait réfléchir régulièrement, dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui lui est arrivé. Voilà, je trouve que c'est le recul... L'humour, c'est quoi ? C'est dire une vérité en la dédramatisant, en induisant une émotion agréable, que ça nous fait rire, et en nous donnant du recul. Voilà, quand on a ce talent-là, on est le maître du monde.
Et alors, donc on le voit bien dans ce livre, hein. Je le disais tout à l'heure, vous racontez que vous êtes devenu plus optimiste que vous ne l'y étiez, en tout cas que vous vous êtes réconcilié avec l'anxiété. Oui. On voit bien aussi que vous défendez... définitivement l'importance de communiquer avec les autres, d'être en lien avec les autres, de pas rester tout seul, isolé. Vous dites, alors, le mensonge comme la non-communication, c'est le plus grand danger. Ça m'a amusé aussi parce que vous dites le zèle, c'est vraiment aussi un, ouais. C'est un mauvais signe de mésestime de soi. Et puis vous dites finalement, voilà, le sujet, ça devrait être de se dire que quand on a réussi quelque chose ou quand on a échoué à quelque chose, on ne devrait pas en faire toute une histoire. C'est arrivé parce que nous continuons notre route. Vous citez aussi Albert Camus pour ça, comme les oiseaux qui volent. Ouais. Et vous citez beaucoup, beaucoup, et comme l'heure passe, j'accélère, excusez-moi, Paul Valéry. Grâce à vous... Ah pardon, j'ai dit trop de choses. Alors allez-y.
Non, mais je voulais... Parce que là, on va ouvrir le chapitre Paul Valéry. Génial, je suis ravi. Mais avant, je voudrais compléter. En fait, si je parle de moi dans le livre... Vous avez compris quand même, hein, c'est pas parce que je pense que je suis formidable et qu'il faut faire comme moi, parce que je raconte mes galères,
oui.
Je raconte voilà pourquoi.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, c'est plutôt pour dire voilà, on n'a pas à admirer les auteurs qui écrivent des bouquins de psychologie, on a juste à voir ce qu'ils nous racontent. Quelqu'un qui écrit un bouquin de psychologie, c'est pas quelqu'un qui est supérieur à sa lectrice ou à son lecteur parce qu'il a atteint les objectifs que la lectrice ou le lecteur n'a pas atteint. C'est quelqu'un qui a fait le boulot avec d'autres patients pour lui. Et donc, il y a des choses à raconter. Il va raconter ses histoires personnelles comme des histoires de patients. Donc, voilà, je voulais juste dire que si je parle pas mal de moi dans le livre, c'est pas en tant que grand modèle formidable, c'est juste en tant que petit terrien qui galère, quoi, et qui passe ses trucs aux copains.
Non, en fait, on a vraiment la sensation que vous partagez, comme on pourrait partager avec vous. Oui. Et d'ailleurs, vous dites finalement, les sages... C'est pas ceux qui ont quelque chose en plus, c'est ceux qui ont des peurs en moins.
Ouais, ouais, j'adore cette formule.
Moi aussi.
Quand vous rencontrez un sage, vous ne demandez pas ce qu'il a en plus, mais ce qu'il a en moins que vous. De quoi il s'est débarrassé.
Ouais, c'est ça. Il me reste 3 secondes pour vous parler de Monsieur Test que j'ai découvert grâce à vous et que je vous invite tous à lire. Et cette petite phrase que vous citez dans votre livre et qui est à la première page du livre, je me suis rarement perdue de vue, je me suis détestée, je me suis adorée, puis nous avons vieilli ensemble.
Génial.
Incroyable. Paul Valéry, il est tout au long de votre livre. Alors, dans Monsieur Test, on comprend vraiment pourquoi. Il y a plein de petites phrases, je ne vais pas en relire d'autres, mais il y a beaucoup comme ça de petites pensées, de petites choses qui semblent tellement simples. C'était un livre qui vous a beaucoup accompagné. Voilà, quelques mots sur Paul Valéry pour finir, s'il vous plaît.
Oui, Paul Valéry, c'est un auteur qui a eu un succès incroyable à l'époque. C'était la star des lettres françaises, c'était une star mondiale. En gros, il a été à son apogée entre 1920-1950, à tel point qu'au moment de la Libération, quand De Gaulle arrive au pouvoir et cherche qui il va pouvoir nommer président de la République, il convoque Paul Valéry pour lui demander s'il accepterait. Et Valéry, surtout pas, malheureux, ça serait une catastrophe. Mais donc c'est un génie, Paul Valéry, en gros, c'est un écrivain surdoué, qui a pas laissé de grandes œuvres exceptionnelles que tout le monde connaît. Alors il y a Soirée avec Monsieur Test, mais peu de monde le connaît. Il a laissé des poésies comme Le cimetière marin, mais le trésor, ce sont ses petites notes, son journal, toutes ses réflexions éparses. Et ouais, j'ai une admiration pour ce bonhomme qui était d'une intelligence fulgurante, qui avait un sens de la formule et qui a passé son temps. Voilà, c'est pour ça que je l'aime aussi. C'est un peu comme les vieux sages tibétains, les vieux méditants comme Mathieu Ricard, tous ces gens qui ont passé des dizaines et des dizaines de milliers d'heures sur leur coussin de méditation. Il a passé sa vie à observer le fonctionnement de son cerveau et de son ego. Et il écrit des choses tellement bien, quoi, que je préfère le citer que paraphraser. Voilà.
Et pour finir, on pourrait ajouter à cette première question que je vous ai posée, où je vous ai demandé quelle était l'histoire de Christophe André, et vous avez répondu. Moi, j'ajouterais bien pour l'histoire de Christophe André, après cette heure passée avec vous, et les précédentes, puisque je vous ai déjà interviewé, c'est l'histoire d'un type qui, finalement, arrive à trouver un certain équilibre pour être heureux. Merci, Christophe André.
Merci beaucoup.